Benjamin Blanchard au micro. Et bien sûr, je suis avec Henri Devillieu. Bonsoir Henri.
Bonsoir Benjamin, bonsoir chers auditeurs.
Et nous sommes bien sûr dans notre série d'émissions à la découverte des églises d'Orient, le 111e épisode et le 45e consacré à la Russie. Et je rappelle, Henri Devillier, que vous êtes maître de chapelle de la Scola Sainte-Cécile qui officie le dimanche à l'église Saint-Eugène dans le 9e arrondissement. Donc la grande messe à 11h, les vêpres à 17h45 et en semaine, pour les fêtes importantes, messe chantée à 19h, le tout diffusé sur l'excellente chaîne YouTube IT Missa Est, mais aussi que vous êtes maître de chapelle de la paroisse russe catholique de la Très Sainte Trinité, rue François Gérard, près de l'église d'Auteuil, dans le 16e arrondissement, où le dimanche, les matines ou la divine liturgie sont à 9h, 9h15. Voilà. Et bien sûr, patron d'émission sur Radio Courtoisie, allez. Liturgie et musique sacrée, liturgie et musique sacrée le dimanche à 16h. Ou à 15h. À 16h.
15h.
15h à 15h. Voilà, et donc nous en étions restés la dernière fois à la régence après un long aparté sur le schisme des vieux croyants. Donc nous sommes toujours au début de la dynastie Romanov. Mais avant, à chaque émission, nous allons commencer par une évocation de la fête du jour.
Voilà.
Évocation spirituelle et musicale.
Alors, nous sommes déjà dimanche, bien sûr, chers auditeurs. Si vous êtes habitués de ces ondes, vous savez pertinemment que l'Église chrétienne compte les jours depuis la veille au soir, comme notre Seigneur dans la Bible qui, lors de la création, commence par un soir, puis un matin, premier jour. Donc nous sommes déjà dimanche, et c'est le cinquième dimanche de Pâques dans la façon de compter de l'Église byzantine. Et ce dimanche est celui de la Samaritaine. Alors en fait, chaque dimanche du temps pascal a un thème un peu précis dans la tradition de l'église de Constantinople. Et en fait, l'évangile de la Samaritaine, donc le Christ qui rencontre cette femme au puits et qui lui dit qu'elle n'aura plus à puiser de l'eau toute sa vie puisqu'il va lui donner une source d'eau vive pour la vie éternelle, eh bien cette Samaritaine, cet évangile est celui de ce dimanche. Alors c'est une tradition qui remonte très haut, en tout cas, probablement au moins au 6e siècle à Constantinople. Et ça fait partie d'une catéchèse très intéressante que possède le rite byzantin pendant le temps pascal, une catéchèse sur l'eau, en fait, et qui est d'une part la prolongation des baptêmes qu'ont reçus les néophytes à la vigile pascale. Et donc on leur propose plein d'évangiles autour de l'eau vive, dont bien sûr cet évangile de la Samaritaine, mais c'est pas le seul. Et ça va être le thème récurrent de la fin du temps pascal, jusqu'à la Pentecôte, où l'évangile de la Pentecôte est encore le discours du Christ dans Saint Jean sur l'eau vive. Donc on a sur quatre dimanches la thématique de l'eau qui revient et qui est à la fois le trait d'union entre Pâques et la Pentecôte, entre le baptême et la confirmation. Entre,
rappelons qu'à la Pentecôte, il y a aussi les bénédictions des eaux. Pas chez les Byzantins.
Alors, c'était autrefois un jour où on pouvait baptiser les adultes, hein, dans l'église byzantine comme dans l'église latine. Il n'y a pas de bénédiction solennelle qui ne se fait qu'à la théophanie, à l'épiphanie en janvier.
Tandis que c'est le cas chez les latins, traditionnellement.
Oui, en fait, on a gardé, même s'il n'y avait plus de baptême d'adultes, alors il y en a beaucoup cette année, rendons grâce à Dieu, on en a eu beaucoup à Saint-Eugène, on a même eu un baptême d'adultes à la paroisse russe catholique, c'était une grande joie cette année, à Pâques, et donc on a de plus en plus ces conversions qui reçoivent le sceau du Saint-Baptême à Pâques et à la Pentecôte. L'église byzantine en fait bénit l'eau que quand il y a un baptême, en fait. Donc c'est dans les livres liturgiques, mais s'il n'y a pas de baptême, on bénit pas, tandis que en Occident on a pris le parti de garder la bénédiction de l'eau baptismale même quand il n'y avait plus de baptême perpétré à la vigile de Pâques et à la vigile de la Pentecôte. Voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, si vous souhaitez assister à la très belle messe de la vigile de la Pentecôte, qui est d'ailleurs pratiquement un calque de la vigile pascale,
Pascal.
mais avec toute la bénédiction du feu et du cierge en moins, bien sûr, n'hésitez pas à venir à la paroisse Sainte-Eugène.
À 15h30, le samedi, veille de la Pentecôte.
Voilà, et donc vous aurez cette belle messe de vigile de Pentecôte.
Où il y aura encore une quinzaine de baptisés, puisqu'on n'a pas passé tout le monde à Pâques,
Voilà.
heureusement,
Il
parce que
faudra vous armer de patience, hein, parce que ça risque d'être un petit peu
c'est
long.
un tout petit peu long, parce qu'on aime bien faire les choses, et c'est important pour ceux qui reçoivent ce beau sacrement que le rite soit bien accompli et avec beauté, avec dignité, avec splendeur. Donc voilà, donc c'est une belle cérémonie, mais si vous voulez découvrir pour la première, si vous voulez emmener des amis voir et découvrir la liturgie traditionnelle, peut-être que c'est pas le meilleur jour.
Oui, il faut peut-être mieux venir le lendemain pour la fête de la
Voilà.
Pentecôte à 11h le dimanche.
Comme à Pâques, c'est quand même dans des longueurs d'office un peu plus raisonnable, peut-être. Voilà, oui.
Voilà.
Mais les deux vigiles de Pâques et de la Pentecôte sont très longues, comme dans le rite byzantin.
Moins même que dans le rite byzantin,
Oui,
parce que dans
parce
le rite
que
byzantin, ça peut être encore plus long.
ça peut être encore plus long, puisque la liturgie du samedi saint. Alors, il y a plus l'équivalent de la vigile de la Pentecôte, en fait, hein. Mais la liturgie du samedi saint est très copieuse. Il peut y avoir 15 prophéties. Il doit y avoir 15 prophéties avant l'épître. Et même les années où l'Annonciation tombe un dimanche, eh bien, on rajoute encore 5 prophéties, ce qui fait 20 lectures avant l'épître et l'évangile. 22 lectures dans une cérémonie. Voilà, c'est les fastes de l'Orient. On a d'un côté la concision latine et de l'autre le foisonnement
Concision toute relative.
le foisonnement oriental.
D'accord. Et je rappelle que le mois précédent, lors de la précédente émission, nous avions abondamment parlé de la fête de Pâques dans la liturgie byzantine, puisque ça tombait le week-end pascal, ancienne forme.
Alors, ce dimanche de la Samaritaine a aussi une autre petite particularité, c'est qu'il arrive dans l'octave de la mi-Pentecôte. Alors, il y a une chose qui est oubliée en Occident et pourtant qui a existé, c'est que, eh bien, comme il y a une mi-carême, il y a aussi une mi-Pentecôte. Et donc, on célèbre encore plus fastueusement la Pentecôte au
Parce qu'il y a une
moyen.
mi-carême.
En tout cas, dans le rite byzantin, il y a une mi-carême. Bon. Et donc c'était mercredi dernier, la mi-Pentecôte. C'est une fête très ancienne, figurez-vous, puisque elle est attestée dès le 4e siècle. On a déjà des sermons de pères de l'Église à cette époque qui indiquent que c'était un objet de célébration. En particulier saint Amphiloque d'Iconium, qui, dans son homélie pour la mi-Pentecôte, remarque que le Seigneur est le médiateur. Et donc, médiane aussi est la fête, car le milieu est toujours assuré par les extrémités. Donc, voilà. Alors, cette célébration du mercredi de la mi-Pentecôte a existé aussi en Occident. On a des homélies de Saint Pierre Chrysologue à Ravenne, par exemple, au 5e siècle, qui ont été prononcées pour cette fête de la mi-Pentecôte. Et
Alors
puis,
qu'il n'y a jamais eu de fête de la mi-carême en Occident.
non. Et en fait, elle a disparu par la suite des âges. En tout cas, elle ne s'est pas établie dans le rite romain, probablement. Et lors de la diffusion du rite romain, eh bien, on a abandonné cette célébration. Dans la liturgie byzantine, c'est très intéressant parce que le thème qui va être abordé dans cette fête, c'est une célébration de la sagesse de Dieu, Sainte Sophie. Et ça va avoir deux conséquences. Ça va avoir d'une part qu'on va essayer de faire les conciles œcuméniques et les synodes provinciaux dans cette période, parce que on se place quelque part sous la protection de la sagesse divine pour décider des orientations de l'Église. Et c'était le cas du premier concile œcuménique de Nicée, qui était autour de cette période, justement. Et en fait, c'est aussi, alors dans la tradition grecque, mais pas chez les Russes, toutes les églises qui sont sous le patronage de Sainte Sophie, de la Sainte Sagesse, eh bien, fêtent leur fête patronale à la mi-Pentecôte. Donc c'est la fête patronale de la grande église de Constantinople, de Sainte-Sophie de Constantinople, entre autres Sainte-Sophie célèbre, hein, il y en a d'autres, mais voilà. Et l'évangile de la mi-Pentecôte va être aussi un discours sur l'eau vive.
Il y en a une désormais en Syrie, à Skalbiyeh, dans la petite ville de Skalbiyeh, qui a été durement éprouvée ces derniers temps, là, suite à une attaque de djihadistes, et que les habitants avaient bâti cette chapelle quand Sainte-Sophie de Constantinople a été transformée en mosquée.
Ah.
Je ne sais pas si vous en souvenez.
Non, mais non, je n'avais pas vu cette information, mais c'est très touchant.
Et, je ne sais pas ce qu'il en reste aujourd'hui.
Oui. Et donc le thème de la célébration, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'eau vive encore, hein. On est toujours sur ce thème de l'eau qui va conduire les fidèles dans le rite byzantin jusqu'à la Pentecôte. Alors on va écouter un peu les pièces de ce dimanche, les pièces un peu emblématiques de ce dimanche, et j'ai choisi de présenter dans l'ordre dans lequel elles sont chantées normalement à la Divine Liturgie, en tout cas dans une église qui est placée, comme la paroisse de la Sainte Trinité, sous le patronage de Dieu lui-même, hein, la Trinité, ou ça peut être une église dédiée au Christ Sauveur, par exemple. Voilà.
Sainte-Sophie.
Sainte-Sophie, ou voilà. Quand l'église est dédiée à la Mère de Dieu, l'ordre des pièces de ce qu'on appelle la petite entrée, ce qui correspond à l'introïte en fait dans le rite byzantin, dans le rite romain, pardon, l'ordre des pièces va changer, et lorsqu'on est dédié à un saint quelconque, eh bien on va encore avoir un ordre différent. Et les usages varient beaucoup entre la Grèce et la Russie sur ce point. Donc là, je prends l'usage d'une église dédiée au Seigneur, comme notre paroisse parisienne, eh bien, on va avoir d'abord le Troper du dimanche, et ça va être pour nous l'occasion d'un peu d'écouter ces textes de Saint Jean Damascène, qui remontent au 8e siècle, probablement plus haut d'ailleurs, qui ont été réagencés dans un livre qu'on appelle l'Octoèque par Saint Jean Damascène, mais qui sont sans doute antérieurs à Saint Jean Damascène. Et donc, on va écouter le Troper du dimanche, ton 4, dont voici la traduction. Ayant appris de l'ange la prédication lumineuse de la résurrection et le terme de l'ancestrale condamnation, les femmes disciples du Seigneur dirent pleines de fierté aux apôtres « Renversée est la mort, le Christ Dieu est ressuscité, donnant au monde sa grande miséricorde. » Une fin un peu brutale, désolé, mais c'est un enregistrement pas professionnel, mais c'est un chœur très sympathique qui s'appelle le chœur Astron et qui chante usuellement à la cathédrale de la Sainte Trinité d'Izmaïlovo à Saint-Pétersbourg, placée sous la direction d'Irina Valentinovna Prusakova. Et ce chœur a un projet actuel d'enregistrer tous les tropères et tous les kondakions possibles. Donc en fait, pour moi, c'est une mine parce que je vais pouvoir me fournir pour nos émissions à chaque fois. Et vous voyez que c'est un peu le style habituel russe, c'est-à-dire qu'on va très vite parce que les offices sont très longs, donc il y a un beau travail sur la diction du texte en fait, et puis avec ces faux bourdons, ces voix qui sont toujours en parallèle et qui marchent de concert pour proclamer le texte de cette antienne, de ce troper du dimanche ton 4 que nous venons d'écouter. Alors dans un temple du Seigneur, on a ensuite le troper de la mi-Pentecôte, et voici le texte que nous allons écouter. Alors là, c'est un chœur d'homme que nous allons écouter, le chœur du monastère Sretensky de Moscou, que nous connaissons bien si vous êtes un fidèle auditeur de cette émission. Un troper de la mi-Pentecôte, ton 8 cette fois-ci. « Au milieu de la fête, abreuve mon âme assoiffée des eaux de la piété. » Car, ô Sauveur, tu as clamé à tous, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Source de notre vie, ô Christ Dieu, gloire à toi. Voilà. Voilà, encore une pièce très brève, hein, et toutes ces pièces en fait s'enchaînent quand vous assistez à une divine liturgie pendant la petite rentrée, donc qui correspond à l'introïde de la messe romaine, et le clergé sort par la porte nord du sanctuaire et rentre par la porte centrale, par les portes royales. Et c'est ce qu'on appelle la petite entrée pour la distinguer de la grande entrée
qui est
le même mouvement mais à l'offertoire, mais plus solennel. On a ensuite en troisième position dans un temple dédié au Seigneur le Kondak de la Samaritaine, ton 8. Donc c'est la pièce qui est dédiée à cette sainte que nous fêtons aujourd'hui, et parce que pour la tradition orientale, eh bien, la Samaritaine évidemment a cru au Christ, hein, c'est ce qu'on peut déduire de l'évangile de Jean, mais elle a été baptisée avec ses enfants, ses sept enfants, et on lui attribue le nom de baptême de Photine, et avec ses enfants, elle a subi le martyre sous l'empereur Néron. Au VIe siècle, l'empereur Justinien s'était attaché à retrouver le puits de la Samaritaine à Sicare, en Samarie, et il l'a fait venir à Constantinople, et donc on a les margelles du puits qui ont servi de marche pour la cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople. Alors, est-ce qu'elles y sont toujours ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une relique.
Quand même pas grand-chose qui a changé à Sainte-Sophie.
Oui,
l'église est assez ancienne.
Et les portes de Justinien sont toujours là. Hein, donc,
la structure est toujours la même.
Oui. Donc probablement qu'elles sont là. Alors j'avoue que j'ai visité Sainte-Sophie, mais j'ignorais à l'époque que les reliques du puits de la Samaritaine étaient à Sainte-Sophie. Donc je n'ai pas enquêté sur place pour voir s'il y avait une marque qui indiquait que c'était les pierres récupérées depuis la Samarie. Voilà. Donc on va écouter le Kondakion de la Samaritaine. Je ne sais plus, j'ai donné la traduction. Non, pas encore.
Pas encore.
Donc voici celle-ci. Par sa foi, la Samaritaine venue au puits vit en toi l'eau de la sagesse. S'en étant abondamment abreuvée, elle reçut en héritage le royaume d'en haut, car elle est digne d'être glorifiée. Voilà, nous écoutions une fois encore le chœur Aston de Saint-Pétersbourg. Comme pour le premier tropaire, le chœur Astron, pardon. La série des pièces de la petite entrée se termine ce dimanche dans un temple du Seigneur par le Kondakion de la mi-Pentecôte. Parce que comme c'est une fête du Seigneur, on finit toujours la série soit par une pièce qui chante le Seigneur, soit une pièce qui chante la Vierge. Hein. On ne peut pas finir par un saint dans un temple du Seigneur. On va avoir ce texte, mais qui va être chanté, contrairement aux trois tropaires et kondaks que nous avons écoutés, d'une façon très différente. Là, on n'est plus du tout dans le style polyphonique commun que toutes les paroisses russes utilisent universellement. On va écouter l'équivalent, mais en plein chant znameni, donc c'est comme le chant grégorien, si vous voulez, mais version russe, un chant qui a été noté à partir du XVIe siècle avec une notation
un
carrée.
Peu plus lent, peut-être.
Voilà, c'est beaucoup plus lent. Et si vous chantez tout l'office en znameni, eh bien, vous doublez ou triplez la longueur de l'office. Hein, donc, c'est aussi agréable d'avoir de la polyphonie rapide parfois. Mais c'est très beau. Et donc, on va écouter ce kondak de la mi-Pentecôte en plein chant znameni par un chœur qui s'appelle le chœur znameni du monastère Spasso Andronikov de Moscou. Alors, ce monastère, on n'en a pas parlé encore dans notre vaste fresque de l'histoire de l'Église russe et de la Russie, mais c'est un monastère très intéressant. Et actuellement, la collégiale, ou la cathédrale, comme on voudra traduire Sobor, la collégiale de ce monastère, ou l'abbatiale si vous préférez de ce monastère, est le plus ancien monument de Moscou. Il est plus ancien que les murs du Kremlin.
Et où à Moscou?
Alors c'est plutôt, c'est assez excentré. À l'époque, c'était à l'extérieur de la ville. Maintenant, ce monastère a été englobé, évidemment. Côté ouest, de mémoire. Et sa collégiale mondiale, donc date de 1420. C'est le seul, le plus ancien monument de Moscou qui reste, hein, puisque contrairement à Paris, qui a des monuments beaucoup plus anciens, eh bien, les Tatars sont passés par là et ont brûlé pas mal de choses. Puis Napoléon a rebrûlé, enfin, les Russes ont brûlé plutôt pour chasser les Français. Donc, beaucoup de monuments ont été perdus à ces deux moments-là. Mais en tout cas, cette cathédrale est toujours debout. Et elle est très intéressante parce qu'en fait, elle a été décorée par le célèbre iconographe Saint André Roublev, hein, le plus connu des iconographes que nous avons déjà évoqué, qui était moine de ce monastère. Alors malheureusement, il ne reste plus beaucoup de fresques de Roublev dans cette église, mais il reste encore des petits éléments plutôt de décoration, mais pas vrai, on ne voit pas de personnages en fait, mais qui sont de la main de Saint André Roublev en fait. Hein. Donc on va écouter donc le conduct de la mi-Pentecôte en plein chant Znameni par le chœur de ce monastère. Voyons la traduction de cette pièce, elle aussi très courte comme les trois précédentes que nous avons écoutées. Au milieu de la fête prescrite par la loi, Créateur et Maître de toutes choses, tu as dit à ceux qui se tenaient auprès de toi, ô Christ Dieu, « Venez puiser l'eau de l'immortalité. Aussi nous prosternons-nous devant toi et disons-nous avec foi, accorde-nous ta compassion, car tu es la source de notre vie. » D'écouter le Kondakion de la mi-Pentecôte en chanté en plein chant Znameni, ce chant grégorien quelque part, version russe. Hein, on aura peut-être une émission dans le futur où on parlera plus de la musique liturgique russe, plus en détail. Voilà, qui a une notation qui remonte au XVIe siècle et qui est très similaire à ce qu'on trouve dans d'autres parties de l'Europe, même en France ou en Espagne, c'est-à-dire un plein chant en valeur proportionnelle avec des longues, des brèves. Et bien sûr, c'est beaucoup plus lent que les trois chants précédents qui allaient sur le rythme habituel des polyphonies russes paroissiales.
Voilà, puis peut-être, je ne sais pas si nous avons fini pour les fêtes liturgiques.
Oui, tout à fait.
Avant de reprendre le cours de l'histoire russe, je voulais partager une bonne nouvelle avec les auditeurs qui date du dimanche des Rameaux, donc dans l'ancien calendrier, c'était la date du dimanche de Pâques chez nous, puisque le patriarche Cyrille de Russie a dit que, je cite, l'Église orthodoxe russe a vécu peut-être le moment le plus inspirant et le plus beau de son histoire moderne, puisqu'en fait la galerie Tretiakov, donc un grand musée de Moscou, a transféré les icônes de la Mère de Dieu de Vladimir et de l'icône du Don, de la Mère de Dieu du Don, les a rendues à l'église. Donc c'était vraiment une grande joie pour l'église russe de récupérer ces icônes, qui étaient régulièrement d'ailleurs confiées à l'église pour des processions, des grandes fêtes, mais là l'église en retrouve pleinement la jouissance et la propriété.
Oui, et puis la permanence en fait, puisqu'elle sera, j'imagine, réinstallée dans l'iconostase de la cathédrale de la Dormition au Kremlin de Moscou, qui est sa place normale. Donc c'est devant cette icône que étaient sacrés les tsars, que les patriarches étaient intronisés. C'est l'icône, on l'a évoqué, qui a expliqué la fondation de la ville de Vladimir, et lorsqu'elle est passée à Moscou, c'était aussi symboliquement montrer dans l'histoire russe que Moscou reprenait le flambeau après Vladimir, en fait, de l'indépendance slave face aux Tatars. Donc voilà, c'est une icône essentielle dans l'histoire russe, en fait, hein, et quand on connaît la
C'est une seule icône ou deux
c'est
icônes?
une seule icône.
Ah, d'accord, pardon.
Enfin, le communiqué laissait entendre qu'il y avait une deuxième icône.
Celle du don,
Celle-là,
la
je ne la
mère de
connais
Dieu
pas.
du don, mais je.
Il y en a beaucoup en Russie, mais
J'ai pas bien
elle ne me
compris,
dit rien.
c'était une ou deux, c'était pas très clair.
Voilà.
Voilà, donc Deo gratias, réjouissons-nous. Et bien sûr, le patriarche remercie le président russe d'être intervenu pour cela.
Oui, on peut imaginer. La galerie Tretiakov est un peu peut-être plus moins sereine, parce qu'en fait c'était un de ses fleurons avec l'icône de la Trinité, donc parce que c'est il y a pas que de la peinture d'icônes, hein,
Ah non,
il y a tous les
très
grands
très riche.
peintres russes du 19e et du 20e siècle sont à Tretiakov aussi, mais c'était une des œuvres majeures du musée, donc bon.
Mais je ne suis pas inquiet pour eux, ils ont encore pas mal de belles œuvres. Alors, le mois dernier, nous en étions restés donc à une
Alors,
régence.
la régence de Sophie, en fait, hein, rappelons un peu rapidement que Alexis Ier Romanov, donc le deuxième Romanov tsar de Russie, la dynastie n'est pas encore très bien établie, eh bien, a eu deux épouses, Marie Miloslavskaya et Nathalie Narochkine. Et évidemment, ça a généré deux partis dans l'État, avec des ministres qui se rangeaient pour l'une ou pour l'autre. Alors, il ne les a pas eu en même temps, hein, ces deux épouses, c'était l'une puis l'autre, évidemment.
Heureusement.
La première étant morte, Nathalie Narychkine était très jeune, hein, et avait séduit par sa beauté Alexis. Eh bien, il y a des enfants des deux lits, et donc la succession a été compliquée parce que du premier lit, il y a surtout des filles et un fils, Ivan, qui n'a pas les meilleures qualités physiques et intellectuelles. Il est un peu débile, en fait. Et du coup, confier l'avenir de l'État à quelqu'un qui manifestement n'a pas les capacités physiques d'assumer ce rôle extraordinaire, eh bien, ça pose problème, et ça a posé problème notamment au patriarche de Moscou et à beaucoup de grands boyards. Et du coup, on a eu des tensions qu'on avait évoquées la fois dernière, et on est arrivé à un système complètement inédit et unique dans l'histoire russe, et probablement dans l'histoire mondiale aussi. C'est qu'on a eu deux tsars, en fait, deux chefs d'État,
Qui étaient les
qui étaient
co-tsars.
deux enfants, qui étaient co-tsars, oui, Ivan et Pierre. Et Pierre est du deuxième lit de Nathalie Narychkine, du parti Narychkine, le futur Pierre le Grand. Mais ils sont tous les deux petits, en fait, hein. Et c'est une des grandes sœurs, mais pas la plus aînée d'ailleurs, Sophie, qui tire son épingle du jeu, qui va, comme on l'a vu, manipuler et tout pour prendre les rênes de l'État. Et on était arrivé à ce meuble très symbolique qu'on voit toujours au Palais des Armures au Kremlin de Moscou, d'un trône double où on mettait les deux enfants dessus. Et puis il y avait un petit voile, et en fait Sophie se cachait derrière le voile et soufflait les réponses qu'il fallait dire pour que les enfants répondent face aux ambassadeurs, ou pour prendre des décisions de justice ou de gouvernement. Donc elle exerçait la réalité du pouvoir, et on imagine bien que ça va avoir un terme à un moment ou à un autre, cette histoire, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'arrivée au pouvoir de Pierre le Grand, bien sûr. Alors, Sophie s'est appuyée pour gouverner sur les Streltsy. Alors, les Streltsy, c'est un peu un genre de milice très énergique, hein, qui remonte
Donc Sophie est russe.
Oui.
Oui, c'est une famille russe.
C'est une des sœurs, en fait.
Ah oui, c'est une des sœurs, oui, pardon.
Elle n'a pas le titre de tsarine, hein, elle est princesse. Donc, c'est une des grandes sœurs des deux tsars, hein, des deux petites tsars. Elle va gouverner avec son amant, son favori, le prince Basile Galitzine, qui est en fait plutôt un bon ministre, hein, qui va plutôt bien tenir l'État, avec une bonne politique étrangère. Galitzine et Sophie vont, de leur propre mouvement, s'activer à réunir un mouvement diplomatique international qui va être de créer une sainte ligue contre la Sublime Porte, contre les Turcs et leurs vassaux, les Tatars de Crimée. Alors c'est une sainte ligue de la Russie, de la Pologne, de Venise et des Habsbourg, de l'Empire d'Autriche, en fait. Hein.
J'imagine qu'il n'y avait pas la France dedans.
Non, voilà, vous imaginez très bien. Et en fait, justement, parlons-en, hein, eh bien, Sophie et Galitzine aimeraient que la France rejoigne la Sainte Ligue. Et donc, ils envoient deux ambassadeurs, les deux princes, hein, Jacob Dolgorouki et Jacob Michetsky, qui débarquent à Dunkerque pour se rendre à la cour de Louis XIV en 1687. Et là, le roi de France les reçoit très mal, parce qu'il se souciait fort peu de faire la guerre aux grands Turcs. Au contraire, Louis XIV était l'allié de Mahomet IV, honte à nous. Suite à quelques temps après, eh bien, les troupes ottomanes mettent le siège de Vienne. Louis XIV en profite, voyant les Habsbourg en difficulté, pour mettre le siège de Luxembourg et relancer la guerre dans les Pays-Bas autrichiens. Là, c'est un épisode que vous connaissez par cœur.
Oui, et qu'on a abondamment évoqué à cette antenne, puisque je connais par cœur, puisque c'est la fête patronale de SOS Chrétien d'Orient le 12 septembre pour la fête du Saint-Nom de Marie, qui est donc la victoire de Vienne.
Oui. Donc Jean Sobieski se couvre de gloire à Vienne, mais il dégage l'Autriche. Hein, donc il y a une vraie alliance des princes chrétiens contre les offensives ottomanes. Mais les Russes n'ont pas joué un rôle négligeable dans cette affaire, en fait. Hein. Alors même
en
si
fait, c'est la deuxième fois que les Ottomans sont stoppés. La première fois, c'était sur mer, pratiquement un siècle avant la bataille de Lépante.
Exactement.
Et là, c'est sur terre cette fois, devant les portes de Vienne.
Exactement. Donc la princesse Sophie, alors le nom russe est Tsarevna, hein, la fille du tsar. La Tsarevna, elle veut aussi faire sa croisade contre les Turcs. Hein, donc elle envoie des émissaires avec à la Pologne avec auprès de Jean Sobieski qui s'est couvert de gloire à Vienne pour signer une paix perpétuelle et quelque part une alliance pour sceller une alliance entre les deux grands rivaux, les deux grands ennemis héréditaires que sont le trône de Pologne et le trône de Russie. Ça marche. Donc cette paix est signée en 1686. On l'appelle la paix perpétuelle. Alors, elle n'a pas été si perpétuelle que ça. Mais
c'est un peu toujours comme ça. À chaque fois, on dit c'est la dernière. Mais...
voilà. Et en fait, la Pologne consent à ratifier les conditions d'un traité d'une guerre précédente entre la Russie et la Pologne, le traité d'Antrosovo, et finalement elle entérine la possession de tout ce qui est l'Ukraine orientale actuelle, c'est-à-dire que la Russie va jusqu'au Dniepr, donc tout l'est, toute la rive gauche du Dniepr est russe, et Kiev qui est sur la rive droite en fait est russe aussi, hein. Et surtout ça consacre le passage définitif à la Russie de Smolensk en fait, qui n'avait pas, comme on l'avait vu dans l'histoire, pas arrêter de passer entre Lituanie, Pologne et Russie. Donc voilà. Donc maintenant que la paix est faite avec la Pologne et qu'on n'est plus des ennemis héréditaires, on va pouvoir se tourner vers le Turc pour essayer de le battre. Alors Sophie est très active. Pour elle, c'est vraiment une mission divine, hein, de repousser le croissant. Pourtant, plusieurs grands boyards de la cour s'oppose fermement à cette guerre en disant que la Russie n'est pas prête à conquérir le Khanat de Crimée, à conquérir la Crimée.
Et je voudrais ajouter, puisque c'est une grande victoire polonaise que cette bataille de Vienne, dire à peine un siècle plus tard, la Pologne venait à disparaître. Oui, donc c'est vrai que c'est les aléas de l'histoire, mais en peu de temps, au vu de la longueur de l'existence de la Pologne, la Pologne passe de sa victoire peut-être la plus prestigieuse à être rayée de la carte purement et simplement.
Oui, tout à fait. En effet. Sophie veut conquérir la Crimée et elle fait une erreur quelque part en nommant son amant et son ministre.
Mais pardon, est-ce que la Crimée fait partie de l'Empire ottoman ou c'est différent ?
Non, la Crimée c'est le Khanat de Crimée, c'est des Tatars de Crimée et ils sont musulmans.
Mais ils dépendent pas de Constantinople.
Mais ils sont vassaux de Constantinople. D'accord. Donc c'est un état vassal de Constantinople et en fait ils sont quasiment en autonomie semi-indépendante par rapport à la Sublime Porte.
Comme principautés roumaines, en fait.
Exactement. Voilà. Mais peut-être avec un lien plus fort encore que les principautés roumaines. Donc elle nomme son amant à la tête de l'armée. Et en fait, celui-ci avait des grandes qualités politiques et diplomatiques, mais va se s'avérer être un chef de guerre plutôt nul.
Moi, c'est
ils réunissent quand même 100 000 soldats, ce qui n'est
pas rien pour l'époque.
100 000 boscovites, auxquels s'adjoignent 50 000 cosaques de petite Russie, donc les cosaques de Zaporoge, qu'on a déjà évoqué, qui étaient déjà ralliés à Moscou.
Ce qu'on appelle petite Russie, c'est plus ou moins l'Ukraine.
Grosso modo, voilà. Alors l'ettement des cosaques, c'est le chef des cosaques, c'est un état un peu aussi autonome, c'est-à-dire que c'est un peu le pendant du Khanat de Crimée pour la Sublime Porte. La Cosaquie Zaporoge, eh bien, c'est aussi un état semi-autonome, on reviendra plus tard là-dessus, dans l'Empire russe, en fait. Hein. Ils ont leur autonomie, ils ont leur chef, leur prince, leur hêtement. Tout ce beau monde fonce sur la Crimée. Cette expédition de 1687 est un échec car l'armée revient bredouille sans avoir livré un seul combat les Tatars de Crimée ont été très habiles, ils ont créé des énormes incendies, donc toute la steppe brûle, ce qui ruine aussi toutes les lignes d'approvisionnement des troupes russes et cosaques et puis l'isthme de Kerch, par exemple, est fermé. Il n'arrive pas à mettre pied en Crimée. Les historiens montrent que c'est surtout l'incompétence du commandement de Galitzin qui est un peu responsable de cet échec.
Il va y avoir un énorme différentiel en termes de nombre de troupes. 150 000 hommes, c'est énorme. Non,
c'est énorme. Et malgré cela, ils n'ont pas réussi à livrer bataille. Et en fait, habilement, les Tatars ont pratiqué la politique de la terre brûlée. Les troupes se sont retrouvées dans une plaine, dans la steppe pontique, complètement dévastée par des incendies, sans blé, sans grains et
sans
approvisionnement. Ils ont dû rebrousser le chemin. L'hêtement des Zaporogues, Samoïlovitch, est accusé de trahison, c'est-à-dire qu'il faut trouver un bouc émissaire pour justifier cet échec militaire. Et donc il est destitué. À sa place, on va mettre un personnage dont on reviendra plus tard, c'est un personnage haut en couleur qui est Mazepa, l'hêtement Mazepa, qui est une figure majeure de l'historiographie ukrainienne, très controversée, comme on verra.
Est le rôle-titre d'un opéra de...
qui est qui est à l'origine de l'inspiration de beaucoup de peintres, parce qu'en fait, ça a été, il a une vie un peu romanesque.
De Tchaïkovski, hein. Pardon.
Oui. Et puis, Lord Byron a écrit une ode aussi sur son histoire. Et beaucoup de peintres, Ras Vernet, mais pas que, on y reviendra, on peint l'épisode essentiel de sa vie. Dans sa jeunesse, il couche avec la femme d'un noble polonais et celui-ci les découvre et en fait le chasse en l'attachant nu sur un cheval et poursuivi par des loups. Mais il arrive à s'en sortir en fait. Et alors ça a frappé les esprits du 19e siècle qui étaient. Voilà, c'était un sujet d'inspiration pour le romantisme. Très intéressant. Bon, on y reviendra. En tout cas, Mazepa prend les rênes de la Kosaquie du
Petite Dnieper, Russie.
De Petite Russie. Et donc, Galitzine qui revient bredouille finalement, alors comme c'est l'amant de la princesse Sophie, eh bien, on l'accueille en triomphe à Moscou, on fait des arcs de triomphe pour lui. Et comme d'autres chefs d'État qui proclament qu'ils ont gagné la guerre actuellement, ces derniers temps, eh bien, on proclame qu'on a gagné la guerre alors que rien du tout, l'opération est un désastre. Et c'est un désastre, et donc on remet les choses en marche. 2 ans après, en 1689, on recommence sous le même gouvernement de Galitzine, mais avec l'aide de Mazepa cette fois-ci. On reprend la route de la Crimée, et la seconde expédition n'est guère plus heureuse que la première. On arrive jusqu'à la ville de Pyrékope, mais les troupes sont obligées de rebrousser chemin sans même avoir remporté cette forteresse. On laisse sur le champ de bataille 20 000 morts et 15 000 prisonniers, ce qui est quand même
colossal.
Pas glorieux. Et à nouveau, Sophie prépare pour son amant une entrée triomphale à Moscou. Ça ulcère le jeune Pierre, en fait, parce qu'il n'est pas dupe.
Jeune Pierre, qui est un des deux co-empereurs.
Un des deux tsars. Autant Sophie va accompagnée du clergé et des saintes icônes au devant de l'armée qui rentre de Crimée. Pierre trouve que la farce est ridicule et préfère éviter cette cérémonie, donc il quitte Moscou et il se retire dans un village de Preobrajenskoye. Alors le nom, en fait, ça veut dire transfiguration. C'est le village de la transfiguration. Et en fait, c'est un nom qui va être important ensuite pour toute son histoire personnelle, en fait, puisqu'il va faire un régiment privé au Brajenskoye. Ça va faire partie.
Et après, sera le régiment peut-être le plus illustre de l'armée impériale.
Oui. La pauvre Sophie va avoir une autre déconvenue également, quelque part un autre aveu de faiblesse de son gouvernement. Elle va devoir lâcher du lest en Orient, où les Cosaques avaient conquis des territoires fabuleux au fin fond de la Sibérie, étaient arrivés depuis longtemps sur les rives du Pacifique, avaient conquis des terres à l'Empire chinois. Dans le traité de Nertchinsk, elle doit restituer à l'Empire chinois toutes les régions du fleuve Amour qui avaient été conquises par les Russes, par une poignée de Cosaques, et elle devait raser les forteresses que les Cosaques avaient édifiées sur les rives de l'Amour.
Est-ce que ça vient suite à une défaite, ça ?
En fait, c'était, oui, un rapport de force. Peut-être que elle n'avait pas les moyens d'entretenir une administration et puis une armée permanente, et le dommage pour le commerce avec la Chine était trop important. Donc l'aspect économique a joué aussi beaucoup dans ce traité, malheureusement, et ça rappelle encore des choses à l'époque actuelle. Donc en fait, quelque part, sous le règne de Sophie, la Russie semble reculer, en fait. Elle ne parvient pas à conquérir de nouvelles positions, et voilà. Pierre grandit. Et Sophie se persuade que Pierre veut la renverser, ce qui est loin d'être faux probablement.
Ce qui est dans l'ordre des choses.
Oui. Et donc elle décide d'organiser un nouveau coup d'état des Strelsi, dans lequel, c'est le projet, Pierre, le futur Pierre le Grand, trouverait la mort. Hein. Donc on assassinerait à l'occasion d'une
révolution
de Pagé.
Qu'est-ce que c'est déjà les
Strelsi ? C'est un genre de milice qui a été établi vers la fin du Moyen-Âge, surtout à Moscou. C'est un peu des... C'est à la limite entre des gendarmes, des soldats, des fonctionnaires qui ont un immense pouvoir, en fait. Ce sont des factieux, en fait, hein, qui vont user de leur pouvoir. Et on sait que Sophie les avait déjà utilisés pour accéder au pouvoir elle-même, en les manipulant habilement. Mais elle n'a pas été prudente avec eux parce que les Strelsi étaient aussi le fer de lance, si je puis m'exprimer ainsi, des Raskolniki, des vieux croyants, des schismatiques. Et Sophie, elle, par son éducation, puisqu'elle avait été éduquée par un des moines qui avait été l'un des acteurs de la réforme du patriarche Nikon, elle était tout à fait dans les idées de la réforme liturgique et du coup elle s'appuyait sur des troupes qui en fait qu'elle opprimait par ailleurs liturgiquement et théologiquement et spirituellement. Donc
c'était un peu bancal.
On peut voir que ça va mal finir très facilement. Le projet se met en place, le chef des Strelsi, certes, accepte de participer au complot, mais plusieurs de ses adjoints préfèrent prévenir le tsar Pierre, en fait. Hein, et celui-ci, habilement, revient à Moscou depuis son village de Préobraženie pour tenter de contrer sa demi-sœur. Et là, la régente Sophie se voit abandonnée par les Strelsi. Elle est détestée par les Moscovites suite à ses échecs en Orient et en Crimée. Elle tente de négocier avec son demi-frère Pierre au monastère de la Sainte Trinité, à la Laure de la Trinité près de Moscou, où Pierre s'est installé. Pierre refuse de la recevoir et en fait Pierre prend le pouvoir à ce moment. Les Strelsi dépossèdent Sophie de tout appui armé, en fait, se rangent du côté de Pierre contre sa demi-sœur.
Et donc que devient-elle ?
Alors bah, évidemment on pourrait la mettre en prison, mais plus classiquement on l'envoie au couvent. Donc la chose pour laquelle elle a lutté toute sa vie, elle ne voulait pas aller au couvent et c'était un peu son destin de fille non mariée, sœur de tsar. Et en fait bah, elle finit au couvent de Novodievitchi, qui est dans Moscou actuellement, mais qui était à quelques kilomètres à l'époque, et elle sera recluse là.
Elle aurait pu être assassinée,
elle va prendre
ou aveuglée.
Oui, c'est vrai, mais on n'est pas si cruel avec sa demi-sœur, peut-être quand même
plus parce qu'on avait vu dans le passé que c'était
ça pouvait être le cas. En tout cas là, elle prend le nom de sœur Suzanne et elle va vivre cloîtrée jusqu'en 1704. Hein, donc on est dans les années oui, ça fait un certain temps quand même qu'elle,
une quinzaine d'années.
Voilà, donc Pierre à partir de 1689 donc prend le pouvoir. On pourrait s'attendre à ce que il en profite pour déposer son demi-frère qui est le frère naturel de Sophie, Ivan V, l'autre tsar, le deuxième tsar, et en fait, non. Il va le garder auprès de lui.
Il n'a pas l'air bien gênant.
C'est... Oui, voilà. Vous avez tout compris. Donc, c'est lui qui va diriger. En fait, Ivan est trop faible d'esprit pour assurer réellement une quelconque fonction officielle.
Et même de corps.
On le surnomme, dans l'histoire russe, on le surnomme Ivan l'Ignorant. Bon. Il était dans un état végétatif, souvent. Il marchait avec grand peine, mais tout de même, il va quand même se marier Avec une personne, bon, on n'a pas trop, on peut pas évoquer tout quand même, mais c'est une personnalité que je trouve assez attachante, la tsarine, puisqu'il y a eu deux tsarines et deux tsars en même temps, hein. Donc la tsarine d'Ivan s'appelle Praskovi Saltykova. Elle lui donne cinq filles, dont la future impératrice Anne Ire de Russie, en fait, hein, donc qui sera une des
Donc il descend d'Ivan V.
qui d'Ivan V et pas de Pierre le Grand, en fait, hein.
Donc il n'était pas si végétatif que ça,
Oui,
quand même.
bah, oui. En tout cas,
En tout
au
cas,
lit, ça
pas en
allait.
permanence.
Certaines fonctions fonctionnaient et d'autres moins, semble-t-il. Voilà. Mais alors qu'en réalité, Pierre, en contraste, est la personnalité tout à fait opposée. Il a une constitution robuste. Il va faire 2,5 m. C'est un géant pour son époque. Hein.
Et même maintenant.
Même maintenant, mais à l'époque, c'est rarissime d'avoir quelqu'un de 2,5 m. Hein. Il est costaud, il a une intelligence vive, une volonté très forte, et évidemment, les deux frères mis côte à côte, c'était le jour et la nuit. Et les partisans, la cour se range sans difficulté du côté de Pierre, et on laisse Ivan l'Ignorant sur le trône, mais il n'est pas bien gênant, et il va pas mourir. Enfin, il va pas tarder à mourir, puisqu'en fait il meurt en 1696. Donc en fait, le règne personnel de Pierre commence en 1689. En 1696, il sera seul tsar, puisque son demi-frère meurt. On l'a pas fait assassiner, hein, il est mort naturellement, enfin semble-t-il, mais il ne posait aucune difficulté. Alors sa veuve va être intéressante et va être un grand secours pour Pierre d'ailleurs, la deuxième tsarine, et puis. Une de ses enfants va être quand même impératrice de Russie, puisque on va voir que des femmes vont monter sur le trône russe au XVIIIe siècle à plusieurs reprises. Alors, quelques mots sur l'enfance de Pierre. Il va avoir une enfance négligée parce que et puis une enfance un peu traumatisée par la prise de possession de sa demi-sœur Sophie, qui avait en fait fait assassiner par les Streltsy une bonne partie de sa famille maternelle. Bon, sa mère avait Narishkine avait pu subsister, mais un peu comme Louis XIV enfant, c'est un
Avec la fronde.
traumatisme qui va être à vie, enfin, qui va le marquer. Et un peu comme Ivan IV le Terrible, en fait, il a une éducation très négligée. Et quelque part, tant mieux, semble-t-il, parce que l'éducation officielle de la cour de Moscou était peut-être pas ce qu'il y avait de mieux, semble-t-il, pour
Pourquoi
former
dites-vous
des hommes
ça?
d'État. Bah, c'est un avis que j'ai lu d'un historien de la Russie. Tous les arguments, je pourrais pas forcément vous les donner ici, mais il va avoir une éducation un peu plus virile, un peu plus militaire, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose d'un peu plus livresque et aux mains des ecclésiastiques, en fait, hein. Donc là, on lui colle pas un moine pour l'éduquer, mais il a juste un maître d'école qui s'appelle Zotov, qui lui apprend à lire, et c'est tout. Et on lui montre l'histoire de l'Europe avec des images. Voilà.
Et nous allons en profiter pour écouter le bobino.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Donc vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Benjamin Blanchard.
Voilà, donc on parlait de l'éducation du futur Pierre le Grand et une éducation qui va être négligée. Il apprend quand même le latin, et puis les langues, donc l'allemand et le hollandais. On va voir que ça va être fondamental pour la suite des opérations. Mais en dehors de ces trois langues,
Et le slavon d'église.
et le slavon d'église, voilà. On lui lit des histoires. Zotov lui lit beaucoup l'histoire d'Ivan le Terrible. Donc, ça lui donne des exemples à méditer sur les actions de gouvernement à conduire, peut-être un petit peu tranchées.
C'est étonnant.
Et puis aussi, on lit beaucoup les actions de son père, le tsar Alexis Ier Romanov, qui avait considérablement accru l'Empire russe, en fait. Et donc là aussi, ça va être aussi un exemple qu'il voudra suivre. Lui-même avouera plus tard, de sa propre plume, enfin, il s'est plaint de n'avoir pas été instruit selon les règles. Mais cette éducation négligée va former quand même une
Son
personnalité trempée,
caractère.
malgré tout, oui. Et alors, comme il est un peu désœuvré, puisque on n'a que quelques leçons par semaine, eh bien, il va très tôt dévergonder. Et donc, il devient un débauché dans les rues de Moscou. Il se balade et puis il croise n'importe qui. Il est anonyme, hein, et il va lier là dans son adolescence. Alors, vraiment, il a une pratique très débauché pour l'époque. Mais il va lier des amitiés qu'il va garder à vie et qui vont être très structurantes pour son histoire, sa politique, pour son action. Il va finalement s'acoquiner avec des Russes parfois un peu
Rustique.
rustiques, mais aussi avec des aventuriers. Parce que Moscou, à l'époque, était comme un Eldorado. C'était un peu une terre mystérieuse pour l'Occident. Et donc,
Des aventuriers qui ne sont pas forcément russes.
voilà, des aventuriers étrangers. Et donc, trois d'entre eux en particulier, alors Le Fort, qui est un genevois suisse, un suisse. Calviniste, Gordon, un Anglais, Timmerman, un Allemand. Par là, il va être en contact avec la civilisation européenne occidentale. Donc, ça va être aussi l'explication de son attrait que tout le monde connaît pour l'Occident. Et voilà. Mais ça s'ancre dans son adolescence. Il a quand même quelques princes, hein, son cousin Léon Narychkine, Boris Galitzine, qui s'est engagé solennellement à ne jamais le flatter de toute sa vie, et un certain André Matveïev aussi, qui était très occidentalisé, un prince d'Olgorouki, chez qui il va découvrir une astrolabe, ça va le marquer aussi. Mais parmi cette petite coterie qui est autour de lui, ses potes en fait, hein, il y a des palefreniers, il y a des battleurs, enfin bon, il y a un peu tout. Mais ça va être le noyau de son futur gouvernement. C'est-à-dire tous ses amis d'adolescence.
Un peu penser à Catherine II quelques décennies plus tard.
Et en fait, ces jeunes gens vont s'amuser à faire la guerre. Mais pour jouer. Donc, il faut imaginer, hein, des gosses, des ados, ils vont fabriquer des petites citadelles, donc ils vont jouer à prendre les citadelles, à se battre. On n'épargne pas le tsar de Russie dans ses bagarres, hein, on lui donne des coups comme à n'importe qui. Il y a parfois même des blessés et des morts, hein, dans des simulacres de guerre qui se font entre eux. Il y a un épisode qui va aussi être structurant et qui va expliquer énormément l'histoire de Pierre et par là l'histoire de la Russie, c'est qu'un jour, eh bien, sur une rivière qui est pas la Volga mais pas très loin, il y a une petite barque anglaise parce que les Anglais arrivaient en Russie par la mer Blanche et remontaient les fleuves russes pour faire du commerce. Il y a une barque de marchands russes qui s'est échouée. Eh bien, il va se mettre en contact avec les marins anglais qui sont là, et puis ils vont lui expliquer comment fonctionne la navigation à voile, comment naviguer contre le vent. Ça va être une révélation pour lui. Et c'est une révélation aussi pour un boyard moscovite, pour un Romanov, parce que c'est vraiment une race qui n'est pas du tout attirée par l'eau. Sa mère avait horreur de l'eau et elle ne comprend pas cet attrait soudain de son fils pour avoir des embarcations. Donc il se fait Il apprend à conduire des bateaux sur des lacs, sur des rivières. Et puis on lui construit une petite flottille de petits navires. Alors c'est pas des grands vaisseaux, hein, mais c'est des embarcations. Sa mère Nathalie Narychkine pousse Léo au cri, mais déjà Pierre rêve de la mer en fait quelque part. Et il faut se rendre compte que bon, on en reparlera, mais que la Russie n'a pas de mer. En fait, le seul port qu'elle a, c'est Arkhangel. Hein. C'est le seul port maritime russe. Et il donne sur la mer Blanche, une mer qui est gelée la moitié, voire les trois quarts de l'année.
Oui, et puis qui donne sur l'océan Arctique. Arctique, ensuite, donc c'est pas très pratique.
La navigation, alors c'est les Anglais qui arrivent par là, mais c'est quand même très compliqué. Ça donne pas des lignes commerciales régulières. Mais la Russie n'a pas d'autres mers. Il faut pas à l'époque.
C'est la mer Noire, mais elle n'a pas de port,
non,
peut-être.
Non, à l'époque, c'est le canal de Crimée. Ils n'ont aucun accès à la mer Noire. Ils ont un accès à la mer Caspienne, mais bon, elle est majoritairement contrôlée par la Perse, en fait, hein, et la navigation
est
au mal.
Par définition, la mer Caspienne, voilà,
on va pas très loin.
C'est fermé, quand même.
Et puis, ils ont perdu leur accès à l'océan Pacifique suite au traité désastreux de Sofia avec la Chine.
Donc, pas d'accès à la mer Baltique, surtout.
Pas d'accès à la mer Baltique, parce qu'en fait, c'est la Suède qui contrôle toute la Baltique. La Baltique est une Méditerranée suédoise. C'est-à-dire que la Finlande est suédoise, la Carélie est suédoise, la région de Saint-Pétersbourg, la future Saint-Pétersbourg, la ville de Pierre est suédoise, l'Estonie est suédoise, la Courlande est suédoise, l'équivalent de la.
Et même
de
vers Lübeck, ils avaient des possessions aussi, oui, vers le Mecklembourg.
Et alors le sud du Danemark est suédois, le Mecklembourg est suédois, c'est vraiment une mer suédoise. Ça aussi, ça va être un point structurant de l'histoire de Pierre le Grand. Mais lui, il rêve de voile, de navigation, de haute mer, et donc ça pose problème. Alors, il y a cet attrait pour l'Europe, et en même temps, cet attrait pour la navigation, et la Russie n'a pas d'accès maritime, en fait.
Il y a peut-être la mer d'Aral, mais bon, alors, on va encore moins loin qu'avec la mer Caspienne.
Oui. Alors, sa mère est terrifiée parce qu'il veut, pour ce goût inattendu pour l'eau salée, mais il se rend à Arkhangelsk. Alors, c'est le grand port russe sur la mer Blanche. Hein, aucun tsar n'était allé jusque là-bas. C'est quand même assez loin de Moscou. Et donc, là, il découvre la mer et il est fasciné par la mer. Il va, comme un simple quidam, manger avec les marchands anglais, les officiers de marine qui traînent dans le port. Il aspire tous ces effluves qui arrivent de l'Occident, fantastiques. Voilà, il va établir un chantier naval. Donc, premier chantier naval pour construire une petite flottille de navires à Arkhangelsk. Et donc lui, il devient skipper, donc il va naviguer sur les voiliers qu'il a construits, et il manque de périr dans une tempête sur la mer Blanche, mais il va même servir de pilote pour des vaisseaux hollandais, pour les guider dans les méandres.
Alors qu'il est déjà régnant.
Oui, et qu'il est tsar de Russie. C'est un peu lunaire quand même. Hein. Voilà, et rappelons-le, cette mer Blanche par laquelle les Anglais étaient arrivés en Russie dès l'époque d'Ivan IV le Terrible, eh bien, c'est une mer gelée une grande partie de l'année. Donc il faut trouver d'autres mers. Et où trouver d'autres mers? Alors, une qui s'offre à lui, c'est la mer Noire, en fait, qui n'est pas si loin, qui est aux mains du Khanat de Crimée, qui est aux mains de l'Empire ottoman, qui contrôle toute la mer Noire. Pour le coup, c'est une Méditerranée turque. Hein. Et Pierre est jeune et il partage aussi tous les sentiments de son peuple vis-à-vis du Turc musulman. Il a l'enthousiasme d'un croisé. Malgré son vif désir de découvrir l'Occident, de découvrir l'Angleterre, la Hollande, l'Allemagne, eh bien, son premier mouvement, ça a été de battre le Turc. Pourquoi ? Parce que il se dit, c'est ça, c'est vraiment sa réflexion, que il ne peut pas décemment arriver en Occident et se présenter face aux souverains occidentaux sans avoir remporté une victoire éclatante. Donc commençons d'abord par battre les Turcs. Une fois qu'on sera couvert de gloire, là on aura des arguments pour être bien reçu en Occident, en fait. Donc on se souvient que le prince Galitzine avait déjà échoué deux fois contre la Crimée. Pierre va lui pas attaquer la Crimée complètement, mais se concentrer sur la forteresse d'Azov. Donc cette ville qui a donné son nom à cette mer d'Azov, qui est la partie entre la Crimée, enfin au nord de la mer Noire.
Fermée par le détroit de Kerch.
Donc il va, ses grands amis Gordon et Lefort, hein, qui sont ses amis d'adolescence, et Golovin, deviennent ses généraux, qui vont commander son armée. Il va constituer un régiment, le régiment Preobrajenskoye, qui va être un régiment d'artillerie. Donc on a une artillerie qui se veut moderne pour ce projet de conquérir la forteresse tatare d'Azov.
Donc Azov, qui est l'extrême nord-est de la mer d'Azov, donc vers Rostov, voilà. Sur le Don, c'est l'équivalent.
C'est l'embouchure du Don sur la mer d'Azov. La ville n'est pas exactement sur la mer d'Azov, je crois que ça doit être à une distance de 15 km. Ça, voilà. Ouais. Mais on peut, par le Don, et on remonter de la mer d'Azov assez facilement. La partie basse du Don est très navigable, donc on arrive facilement par la mer ou par la terre. Alors, première tentative contre Azov, et là, un échec.
Décidément, on
fait deux assauts contre la ville, la ville résiste, et en fait, tous ces nouveaux chefs de guerre, tous ces amis, tous ces potes en fait, qui étaient devenus généraux, il manque quand même un peu d'expérience pour faire des campagnes. Et même un ingénieur allemand qui était important dans le système mis en place par Pierre, l'allemand Janssen, va trahir et passer à l'ennemi. Et ça, Pierre le Grand, la trahison, on va le voir, c'est vraiment quelque chose d'impardonnable pour lui, et on aura plein d'exemples dans sa vie. Le tsar lui-même est là, donc Pierre est là, et ce premier essai est raté, donc c'est vraiment une déconvenue. Et donc, il va pas rester là. Alors, il rentre à Moscou, comme Galitzin, il va triompher. Et on va lui faire des arcs de triomphe pour l'accueillir à Moscou.
Donc souvenons-nous qu'il avait reproché à sa mère.
Oui, voilà, c'est ça, mais il refait la même chose. Et donc il essaie d'analyser la situation et de comprendre pourquoi cet échec. Et il va demander de bons officiers à l'étranger, des officiers d'expérience. L'Autriche et la Hollande vont lui envoyer des officiers d'artillerie. La Prusse va lui envoyer des ingénieurs. Venise va lui envoyer un amiral. Il va essayer d'attirer des compétences militaires qui manquent cruellement à l'armée russe.
Un amiral, s'il n'y a pas de flotte, voilà. C'est de l'utilité.
Ben oui, parce que la flotte, entre la mer Blanche et la mer d'Azov, il y a quand même...
À côté.
c'est impensable. Mais c'est ce qu'il va faire. Il va créer une flotte. Il va créer une flotte sur le Don. Donc on va mettre des chantiers navals sur ce fleuve. On va construire 22 galères, 100 radeaux, 17 barques. Et donc on va, tous les petits ports du Don en amont d'Azov vont être métamorphosés en chantiers. On va compter 26 000 ouvriers qui vont être rassemblés de tous les points de l'Empire pour construire ces bateaux, pour pouvoir descendre le Don et attaquer la forteresse d'Azov. Alors Pierre écrit une lettre dans laquelle il dit que, suivant la recommandation de Dieu à Adam, il mange son pain à la sueur de son front. Parce que lui-même mouille sa chemise pour construire sa petite armada sur le fleuve Don. Il écrit à une de ses sœurs, D'après tes conseils, je ne m'approche plus des boulets et des balles, ce sont eux qui s'approchent de moi, mais assez courtoisement. Donc, il a un certain humour. Donc il met le siège de la ville d'Azov à la ville d'Azov lui-même, et c'est un siège à la fois par terre et par mer et par fleuve, c'est-à-dire que on va descendre le Don avec la flottille et puis on va attaquer à la fois par la terre et par l'eau la ville. Les ingénieurs étrangers, les ingénieurs prussiens vont faire merveille, ils vont créer une brèche en faisant sauter les murailles d'Azov, et donc la victoire est proche, et on se prépare à donner l'assaut final, mais Azov préfère se rendre d'elle-même et la place capitule. Donc évidemment c'est une liesse populaire dans toute la Russie. Et une liesse qui suscite aussi la jalousie des Streltsy, vous savez, cette
milice qu'il avait portée au pouvoir.
Qu'il avait portée au pouvoir, mais qui était toujours très turbulente. Pourquoi ? Parce que pour les Streltsy, cette victoire est due à des étrangers. C'est grâce aux Allemands, aux Hollandais, aux Autrichiens, aux Vénitiens que finalement Azov est tombé. Donc ça suscite une certaine jalousie nationale. Mais c'est quand même une belle victoire que les poètes de l'époque chantent comme étant égal à la prise de Kazan ou d'Astrakhan sur les Tatars musulmans. Donc c'est aussi une victoire sur l'islam considérable pour Pierre et pour le peuple russe. Et effectivement pour toute l'Europe, parce que dans l'enthousiasme de la levée du siège de Vienne, eh bien, l'Europe est heureuse de cette victoire à Azov, au point que même à Varsovie, on crie « Vive le tsar !» parce que c'est une grande grâce de vaincre l'impur croissant. Donc l'armée rentre cette fois-ci.
On va crier « Vive le tsar !» pendant très longtemps.
Bah, ça va, soupir le grand, c'est pas... Oui. C'est par la suite que ça va se gâter, mais bon. Alors, l'armée russe rentre à Moscou sous des arcs de triomphe une fois de plus, mais cette fois-ci, ils sont justifiés. Et alors, on représente Hercule foulant au pied un pacha et des Turcs, Mars terrassant un muezzin et des Tatars, etc. Bon. C'est une belle victoire. L'amiral Lefort et le généralissime Schein, qui sont les amis d'adolescence de Pierre, sont dans le cortège sur des magnifiques traîneaux. Pierre reçoit le grade de capitaine. Et le traître Janssen, vous savez, cet ingénieur qui a été passé à la première campagne contre Azov du côté tatar, eh bien, est tiré avec des chaînes dans le cortège triomphal.
Parce qu'il était récupéré dans la ville.
Il a été récupéré à Azov et il va finir sur une potence. On a voulu, évidemment... assurer la pérennité de sa victoire. Donc on va, par décision de la Douma, établir à Azov 3000 familles russes, 400 kalmouks. Alors les kalmouks, c'est des Mongols, certains sont musulmans, mais d'autres sont devenus orthodoxes aussi. Et puis une garnison de Streltsy moscovites sera dépêchée sur place pour contrôler la ville. On peuple d'éléments fidèles à l'empereur. Cette forteresse conquise sur les Tatars de Crimée. Et là, on a un accès à la mer, enfin, même s'il est très étroit, puisqu'on n'a pas tout de la mer d'Azov, on a juste un petit accès sur une...
La mer d'Azov n'est pas très ouverte, puisqu'il y a ce fameux détroit de Kerch qui n'est vraiment pas large.
Et malgré tout, ça va être vraiment l'acte de naissance de la marine russe, en fait. Hein. Puisque on va... degré ou forcé, tous les états de l'Empire vont contribuer à la création de la marine. Donc le patriarche lui-même, les évêques, les monastères vont s'imposer la construction d'un navire pour 8000 serres. Donc à partir du moment où vous avez 8000 serres, vous devez construire un navire pour la flotte russe. Les marchands ne sont pas en reste, les grands boyards non plus, les fonctionnaires, tout le monde est pris dans une fièvre de guerre sainte et veut apporter sa contribution personnelle à la création de la marine naissante. On projette même de faire un canal entre le Don et la Volga. Et puis on essaie de recruter des marins un peu partout dans l'Europe parce qu'on n'a jamais su naviguer hein, depuis l'époque des Varegs.
Canal de Don à la Volga qui permettrait de relier la mer Caspienne à la mer Noire.
Exactement.
Parce que la Volga se jette dans la mer Caspienne.
Voilà. Et donc on envoie aussi 50 jeunes nobles de la cour de Moscou à Vienne... en Angleterre, à Venise, aux Pays-Bas, pour apprendre la marine, pour apprendre comment piloter des navires, comment être capitaine de vaisseau, puisque c'est un métier inconnu pour l'instant en Russie, et puis pour apprendre comment les finesses de la construction navale. Pierre va se dire que lui-même doit montrer l'exemple, en fait. Si ses sujets doivent apprendre à créer des bateaux, lui-même doit savoir le faire. Et donc, il veut donner un grand exemple. Il veut devenir charpentier de marine. Alors, c'est vrai que les Russes n'avaient plus de marine, mais... pas oublier qu'à l'origine, dans toutes premières émissions, on avait évoqué ça, c'était des Varegs qui avaient descendu les cours des grands fleuves russes et qui étaient descendus jusqu'à Constantinople et qui avaient menacé
Constantinople. Je rappelle, les Varegs, c'est des hommes du nord de l'actuelle Suède.
Oui, des Vikings.
Des Vikings,
voilà. Des Vikings. Voilà. Alors là, il y a le premier grand voyage en Occident de Pierre. Il a eu son succès, il a eu sa victoire éclatante, il a été félicité.
Voyage officiel ou un voyage incognito ?
Alors, voyage incognito. Il a été semi-incognito. Il a eu son grand succès à Azov, donc il se sent maintenant légitimé pour découvrir l'Occident dont il rêve en fait, hein, en grande partie par les récits de ses camarades d'adolescence. Donc il va envoyer l'amiral Lefort, le Suisse, hein, les généraux Golovin et Vosnitsyn, comme grand ambassadeur du tsar.
L'amiral suisse, c'est pas commun non plus.
Oui. Pour fonder une marine russe, c'était quand même un choix osé. Mais il y a une marine en Suisse.
Oui,
hein,
oui.
Encore aujourd'hui. Et ils ont gagné la Coupe América aussi.
Oui, hein, ça a plusieurs reprises.
Voilà. Et leur suite est fastueuse. Elle se compose de 270 personnes, jeunes nobles, soldats, interprètes, marchands. Et dans ce cortège de 270 personnes va se dissimuler un jeune homme qui se fait appeler Pierre Mikhailovitch. Donc, Pierre, fils de Michel, mais voilà, et donc il navigue incognito. Officiellement, il y a trois grands ambassadeurs, mais lui, il fait partie des quidam de la suite, en fait. Alors, il choisit cet incognito qui est très surprenant et qui montre aussi sa personnalité quelque part tellement originale, pour avoir plus de facilité. Pour découvrir les secrets de la construction navale. En passant par Riga, l'ambassade russe se fait insulter par le gouverneur suédois de la ville, y compris Pierre, et donc il va garder ça en mémoire, hein. On va voir que ça va avoir quelques répercussions plus tard. À Königsberg en Suisse, le colonel prussien de la place...
En Prusse, pardon.
Désolé pour la fatigue. À Königsberg, le colonel prussien va donner même un brevet à Pierre Mikhailov, un brevet de maître en artillerie. Voilà, donc il a un petit diplôme. On ne sait pas que c'est le tsar, mais ouais, il a eu son diplôme. Il traverse les cours de Courland, de Brandebourg, de Hanovre. Sophie Charlotte de Hanovre, qui deviendra plus tard reine de Prusse, a compris que c'était le tsar. Bon, c'était de la semi-clandestinité, hein. On pouvait être assez facilement au parfum. Et donc, elle a laissé dans ses mémoires de curieuses informations sur ce passage du tsar à Hanovre. Pierre a alors 27 ans. Sophie-Charlotte de Hanovre s'étonne de sa vivacité d'esprit, de sa promptitude, de son acuité intellectuelle. Mais en même temps, elle est très choquée par la grossièreté de ses manières, sa mauvaise tenue à table, qu'il mange comme un porc, et en même temps farouche. Farouchement timide, un enfant mal élevé, quoi, qui grimace parfois, qui a des tics de visage qui peuvent être effrayants par moments. Et pourtant, c'est un beau gosse, hein, 2,5 m, des grands yeux, des traits très affinés. La jeune électrice de Hanovre dit qu'il doit être très bon et très méchant. Et c'est peut-être finalement un assez bon portrait. S'il avait reçu une meilleure éducation, ajoutait la princesse, il serait un homme accompli. Voilà. Donc, y a un petit épisode cocasse. L'ambassade danse à la cour de Hanovre et en fait, Pierre, comme les autres moscovites, ne comprennent pas que les femmes ont des. Ils invitaient les dames à danser et ils ne comprennent pas qu'elles ont des baleines dans leur corset. Et donc, Tsar a écrit à sa sœur, ces Allemandes ont des os durs en diable, en fait, mais parce que.
C'était les corsets.
C'était les corsets, en fait, qui n'étaient inconnus en Russie, bien sûr. La grande ambassade reste à Hanovre et puis Pierre prend les devants et part tout seul dans la ville de Zaandam en Hollande. C'est une ville qui existe encore aujourd'hui, qui est au nord-ouest d'Amsterdam, où il y a des chantiers navals. Et donc il arrive là, il prend son logement chez un forgeron, il s'habille en compagnon à la mode hollandaise et il commence à manier la hache, à construire des bateaux. Il va surtout profiter pour essayer de découvrir les secrets de fabrication. Donc, il visite les manufactures, les scieries, les corderies, tous ces 100 et ces 1000 métiers qui sont autour de la construction des grands vaisseaux. Et les Hollandais, rappelons-le, sont les maîtres des mers avec les Anglais et les Français rattrapent leur retard grâce à Colbert. Mais la Hollande a dominé les mers avec une excellente construction navale. Donc, en fait, on vient faire de l'espionnage industriel très clairement auprès des meilleurs. Au monde à l'époque. Hein. Ensuite, il repasse à Amsterdam là, il va profiter pour découvrir un peu plus d'autres secteurs que la construction navale. Il s'intéresse à l'anatomie, à toutes sortes d'arts militaires. Mais aussi à des recueils de lois. Il étudie les lois maritimes, les traités, la diplomatie, pour un peu se familiariser à cette ambiance des relations internationales occidentales. À chaque fois, il va rentrer facilement dans des échanges avec des particuliers, avec beaucoup de bonhomie. Il pénètre dans les boutiques. Il a été fasciné un jour par un dentiste qui arrachait des dents. Enfin, il trouvait ça incroyable. Il écrit au patriarche de Moscou, « Nous travaillons pour conquérir solidement l'art de la mer, afin qu'étant instruits complètement à notre retour en Russie, nous soyons victorieux des ennemis du Christ et par sa grâce libérateur des chrétiens qui sont là-bas. Voilà ce que je ne cesserai de désirer jusqu'à mon dernier soupir. » Et c'est toujours le vaste projet qui a traverser toute l'histoire russe par la suite de libérer Constantinople. Hein, ils n'y sont pas arrivés, mais pas encore pour l'instant. Voilà, il y a quand même des principes chrétiens. On présente parfois Pierre le Grand comme un athée peu intéressé par les questions religieuses. En fait, c'est pas du tout le cas. Et la motivation de la croisade est quand même un leitmotiv constant dans l'histoire russe et aussi chez Pierre le Grand. Il revient de Hollande par la mer. Il
ne passe pas en France.
Non, il rentre pas en. Alors, il va, pardon, il va 3 mois à Londres quand même, parce qu'il faut aussi espionner le savoir-faire anglais. C'est aussi une des flottes majeures du monde à l'époque. Il va aussi en Angleterre, non seulement s'intéresser à la construction navale, mais aussi à l'orfèvrerie, à l'architecture, à l'artillerie. Il revient en Hollande. Il ne parvient pas à visiter la France, même si c'était son désir. Et en fait, c'est Saint-Simon lui-même, le duc de Saint-Simon, qui rapporte dans ses mémoires que Louis XIV s'est arrangé pour dissuader Pierre de venir le voir, en fait. Pourquoi? Parce que derrière, la France est toujours l'allié historique du Grand Turc depuis François Ier, et Louis XIV l'est toujours. Et évidemment, ça mettrait quelques difficultés dans l'alliance en franco-turc si le tsar qui venait de battre les Turcs était reçu
en grande pompe à
Versailles. Donc, il va à Vienne. Et puis pour étudier l'art militaire, et il voulait aller à Venise ensuite, et malheureusement de fâcheuses nouvelles lui parviennent de Moscou, et il doit rentrer à Moscou, mais ce sera
le mois prochain
pour savoir qu'est-ce qui a pu écourter son premier voyage d'exploration en Europe occidentale et le faire rentrer précipitamment à Moscou.
Merci chers auditeurs de nous avoir suivis, restez à l'écoute de Radio Courtoisie pour la seconde partie de cette émission avec l'excellent Adrien Renoir, et nous nous retrouvons dans 4 semaines.